Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La grande peur des catholiques de France est le livre que vous publiez Henri Tinck et plus généralement ce lundi de Pâques. Et on parle beaucoup du pape, on parle d'un pape qui a consacré son discours d'hier à la situation en Syrie où il a prononcé une bénédiction Urbi et Orbi, la Syrie où a lieu selon lui une extermination. Un discours qui rappelle, comme il le fait aussi à Noël, plusieurs situations difficiles dans le monde sur lesquels il a imploré la paix, avec une actualité assez fournie au Vatican. Et j'aimerais profiter de vos lumières pour comprendre un peu mieux ce qui se déroule auprès du pape.
Bonjour Guillaume Erner. Oui, effectivement, cette figure du pape reste celle d'une force morale très très puissante à travers le monde, et ce qu'il dit sur la situation en Syrie et sur l'accueil des réfugiés en Europe, sur la paix dans le monde, tous ces discours qu'il répète régulièrement et qu'il a encore répété hier pour son message de Pâques, toute cette acquis de ce pape, grande figure morale mondiale et homme d'une église plutôt progressiste, plutôt sociale, plutôt ouverte, cette figure-là demeure. Cela dit, il faut bien savoir que à l'intérieur même du Vatican, il y a des forces d'opposition qui s'organise contre cette figure un peu progressiste qui était extrêmement populaire au début de son pontificat il y a 5 ans. Mais qui maintenant, cette popularité aujourd'hui, ça me nuise.
Pourquoi ?
Je cite deux choses. Le traitement des affaires de pédophilie, vous savez que c'est un scandale pour l'Église catholique à travers le monde, en Australie, aux États-Unis et également en France, on le sait. On a l'impression que ce pape est capable d'engager un certain nombre de réformes de bureaucratie, n'apporte pas tout ce que les victimes des affaires de pédophilie à travers le monde pouvaient espérer de ce pape, c'est-à-dire plus d'engagement dans la mise en œuvre de cette politique de tolérance zéro par rapport à ces pratiques.
Qu'est-ce que ça signifie, Henri Tinck ? Ça signifie qu'il y a encore des protections dont bénéficieraient certains évêques, certains membres du clergé criminels, ou bien est-ce que ça signifie que le pape n'a pas pris la mesure réelle de cette crise ?
Je crois qu'il a pris la mesure réelle de cette crise, mais il y a encore, dans beaucoup de pays, des réticences, des résistances à la reconnaissance de la culpabilité de prêtres catholiques. Et puis, il y a des pratiques bureaucratiques dans cette Église qui fait que on hésite toujours à dénoncer devant la justice civile des prêtres qui se sont rendus coupables, dont on sait qu'ils se sont rendus coupables d'actes pédophiles.
Et donc le pape a été obligé récemment de faire un mea culpa à ce sujet, en expliquant donc qu'il n'avait peut-être pas pris la mesure de la situation. Ça commence à faire longtemps
Il en fait régulièrement, des actes de repentance.
Du coup, on a du mal quand même à comprendre.
Mais les commissions, les tribunaux internes à l'Église qu'il avait promis de réunir pour traiter ce genre de cas, eh bien, ça ne se met pas en place. Et il y a des représentants de victimes à l'intérieur des commissions au Vatican pour traiter de ces problèmes. Les représentants des victimes s'en vont en disant « on ne peut pas travailler avec vous, il y a trop de résistance à l'intérieur de la curie romaine ». Et l'incapacité de ce pape à faire plus la lumière et surtout à sanctionner davantage, elle interroge quand même beaucoup, oui, de catholiques progressistes et en dehors et aussi de cette Église.
Ça veut dire que ces gens sont protégés ? Je parle de ces membres du clergé qui se seraient livrés à des actes de pédophilie.
Pas protégés directement, mais une espèce de réflexe conservateur. On ne bouge pas les choses, on n'ose pas bouger les choses de peur du scandale. Du scandale pour cette grande institution morale, je disais, qu'est l'Église.
Alors, ce pape est là depuis quelque temps, désormais, Henri Tinck. On voit qu'il est engagé dans une réforme et, semble-t-il, cette réforme, elle a des difficultés. Il voudrait donc rénover la curie. Cette curie ne se laisse pas faire. Quelles sont les forces en présence Pouvez-vous nous donner le nom des différentes divisions au Vatican?
Voilà, il y a effectivement des courants qui s'organisent depuis le début même du pontificat de ce pape, qui considère que cette figure latino-américaine, avec son langage très populaire, son langage très imagé, avec sa théologie proche de la théologie de la libération, quoi. Très à gauche. Beaucoup de ces milieux populaires, conservateurs trouvent que cette figure du jésuite et du curé latino-américain qui est resté d'une certaine façon ce pape proche du peuple, quoi, hein, considère que c'est une anomalie à la tête de l'Église. Il y a des courants qui disent que il dévalorise la fonction pontificale, et il y a surtout des courants qui estiment que par son discours plutôt tolérant pour les homosexuels, pour les femmes qui avortent, pour les divorcés remariés, il y a des courants d'opposition de droite qui estiment que ce pape brade la doctrine catholique.
Ça veut dire que le clivage droite-gauche, alors on va en reparler pour les catholiques de France, puisque là vous considérez que l'Église catholique en France est confrontée à une droitisation des fidèles. Ça veut dire aussi que la question se pose à l'échelle internationale et en particulier au Vatican, Henri Tinck ?
Absolument. Bon, les forces ne sont pas équilibrées. Ces archi-conservateurs sont quand même extrêmement minoritaires au Vatican. On compte quelques cardinaux. On en compte 4 ou 5 qui se sont dévoilés par des lettres publiques mettant en cause la capacité de ce pape à gérer les problèmes liés, par exemple, à l'avenir de la famille, lié à la question importante pour l'Église de l'indissolubilité du mariage, du divorce. Eh bien, ce pape plutôt tolérant, en disant il faut davantage accepter les personnes qui sont divorcées, eh bien, il y a quelques cardinaux qui se font entendre. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Italie, qui se font entendre et qui émettent publiquement des doutes sur la capacité de ce pape à assurer la stabilité et assurer la doctrine catholique dans ce qu'elle a de plus traditionnel.
Mais ça, c'est quand
ce
même incroyable.
Ce sont des cardinaux de droite.
Mais c'est quand même incroyable parce que c'est... On n'a pas l'habitude de voir des controverses ouvertes au sein de l'Église. On sait qu'elles existent parce qu'il y a des journalistes comme vous qui nous aident à décrypter la vaticanologie. C'est compliqué à dire, Henri Tinck. Néanmoins, lorsque ces doutes se font de manière ouverte comme
public.
ça veut dire quoi?
Ça veut dire que...
Il est faible, le pape?
Qu'en effet... Ce pape est presque plus populaire à l'extérieur de l'Église, dans le monde, que à l'intérieur même de son Église. Bon, c'est un propos qu'il faut sans doute davantage mesurer, mais en dehors de ces quelques cardinaux d'opposition, je rencontre beaucoup de catholiques en France et dans le monde qui estime que ce pape a apporté une espèce de d'ouverture très sympathique, mais que ça restera dans l'histoire de l'Église moderne un feu de paille, que après lui on retrouvera une manière d'être pape et une doctrine beaucoup plus affirmée, beaucoup plus rigoureuse, quoi. Il y a des forces qui consistent à dire que ça ne peut pas durer comme ça et on attend de tourner la page.
Ça veut dire qu'il n'est pas assez papal, le pape? Ça veut dire qu'il serait pas réélu, Henri Tinck?
Ah, il n'est pas question de le réélire.
Non, je sais bien qu'il ne peut pas se représenter.
On n'est pas dans une démocratie tout à fait normale.
Non, je pense qu'il a été élu. Peut-être qu'on se repent, puisqu'il y a beaucoup de repentance.
Il a beaucoup de soutien, évidemment. Mais il a des oppositions un peu de gauche sur le thème. Il ne fait pas assez pour l'affaire de la pédophilie. Il ne va pas assez dans le sens des victimes et de la tolérance zéro. Et il a une opposition de droite qui dit ce pape brade par sa trop grande tolérance la doctrine catholique de toujours, comme si elle était immuable, comme si cette doctrine catholique n'a pas bougé à travers les siècles.
Bon, actualité du pape, actualité de Dieu, on va en parler. Actualité du diable aussi, Henri Tinque. Eh oui, parce que le diable a une actualité, hélas, il en a une aussi au sein de l'Église.
Ce pape est allé jusqu'à dire, et ça illustre complètement ce que nous venons de nous dire, il a dit dans un journal italien, La Repubblica, que l'enfer n'existe pas. Donc vous voyez tous les conservateurs de l'Église qui
Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfer n'existe pas? Parce que j'ai cru comprendre que depuis deux millénaires, l'Église vivait avec la présence de l'enfer.
Il va de soi que ce propos prêté au pape par le directeur de la Repubblica, Eugenio Scalfari, qui fait des interviews du pape, sans jamais prendre une seule note et sans enregistrement,
c'est risqué, ça.
Grand monsieur qui est Eugenio Scalfari, qui a 93 ans, qui a la chance de pouvoir interviewer le pape, il l'a fait deux fois, mais à chaque fois qu'il sort le contenu de sa conversation avec le pape, il y a toujours des incidents, donc on n'est pas sûr que le pape ait dit ça. Cela dit, c'est vrai que ce pape parle sans doute beaucoup, parle sans doute un peu trop, et là il veut dire que l'enfer comme réalité concrète qu'on nous a décrit millénaires.
Deux millénaires.
Et comme on le trouve dans la Divine Comédie, l'enfer,
il y a pas de chaudron,
du catéchisme de notre enfance, ça n'existe plus. Bien sûr que non. L'Église ne peut pas changer sa doctrine comme ça. Pour changer la doctrine de l'Église, il faut des conciles, il faut des grandes réunions, il faut des commissions de théologiens. C'est pas un propos du pape à un directeur de publication italienne qui va changer la doctrine de l'Église. Non, il veut simplement dire, et il s'en est expliqué, que ce qu'il appelle les pécheurs, s'ils se repentent, eh bien, jouissent, peuvent espérer jouir du paradis et de la contemplation divine. Mais que ceux qui se repentent pas, eh bien, ils n'ont pas droit au bénéfice de cette contemplation divine à travers un paradis. Mais ça ne veut pas dire que la réalité concret d'un enfer, personne évidemment ne peut la connaître. Ça veut pas dire qu'elle est ou qu'elle existe ou qu'elle est remise en cause.
C'est quand même extrêmement permissif. Au-delà de ces propos qui auraient ou qui n'ont pas été prononcés, on voit bien que ce pape est beaucoup plus permissif que le précédent.
Il est très très oui très permissif. Mais je vraiment rien pour les observateurs objectifs de ce pape, rien ne permet de dire que depuis 5 ans qu'il est pape, il a bradé, au fond, la doctrine. Rien ne permet de dire qu'il a trahi, qu'il trahit la foi de toujours, comme disent les traditionalistes. Il prend une attitude plus ouverte et plus tolérante, mais il ne remet pas en cause les piliers de la doctrine catholique. C'est un faux procès qui lui est fait.
Et puis alors, au travers d'une péripétie vaticane, on a vu ressurgir le précédent pape. Est-ce qu'on comprend mieux finalement pourquoi celui-ci a abdiqué? Est-ce que son autorité morale, parce que c'était quelqu'un de beaucoup plus traditionnaliste, Henri Tinque, alors qu'est-ce qui se passe dans cette cohabitation entre l'ancien pape, le nouveau pape?
C'est évident qu'il y a une rupture dans l'histoire des pontificats modernes avec l'élection d'un pape comme le pape François. On a eu Jean-Paul II à la charnière des deux siècles, et puis on a eu celui qui a toujours accompagné Jean-Paul II, c'est Benoît XVI, dans une sorte de politique un peu de raidissement doctrinal. Et puis, ce pape Benoît XVI, usé par l'âge, usé par les scandales qui ont éclaté au Vatican, on s'en souvient tous, et il a abandonné. Il a renoncé à sa charge et est venu ce nouveau pape qui a dit « Je veux réformer l'Église ». Un nouveau personnage réformateur, voilà. On a dit une sorte de Martin Luther, nouveau Martin Luther catholique,
ce qui n'est pas rien.
Moi, je dirais plutôt un Gorbatchev de l'Église, voilà. On a élu en 2013 un pape comme le pape François, venant de la Compagnie de Jésus, qui n'avait jamais eu de pape, les jésuites, venant d'un continent qui est le plus catholique au monde, mais qui n'avait jamais eu de pape, eh bien, c'est une révolution dans l'Église, avec une figure libérale et progressiste.
Mais alors, on a interprété ça, Henri Tinck, comme une manière aussi de répondre à l'évangélisme, parce que l'une des questions de l'Église, c'est une question interne, c'est la réponse à cette conquête des évangélistes sur les fidèles.
C'est tout à fait la vérité. L'évangélisme progresse dans le monde. Ne tournons pas autour du pot. La principale religion dans le monde aujourd'hui, ce sont les évangéliques qui sont tout puissants aux États-Unis. On le sait, on l'a vu au moment de la victoire de Trump et avant lui de George Bush Jr. On le voit en Amérique latine tous les jours.
Comment vous l'expliquez ça, Henri Tinck ?
Il y a des forces évangéliques puissantes au Brésil, au Mexique et au Costa Rica, où il y a une élection en ce moment. C'est un candidat évangélique qui est le favori.
Comment vous l'expliquez ?
Et dans le monde. Ça s'explique par une espèce de crédulité de la part de populations pauvres. Il y a un lien à faire sociologique entre les minorités écrasées, opprimées dans les pays lointains, en Asie, en Afrique surtout, et en Amérique latine, ces minorités opprimées et le besoin de croire à quelque chose qui apporte des solutions immédiates, qui apporte des guérisons, qui apporte des solutions toutes faites.
C'est pas très papal, tout
ça. On appelle ça la théologie de la prospérité. On apporte des consolations à des populations qui sont écrasées par le malheur, par la souffrance. C'est pas la théologie du pape, mais c'est cette Église progressiste qui est la mieux à même de concurrencer les évangéliques.
Je ne reconnais plus mon Église, c'est vous qui dites ça. Henri Tinck, on a parlé du pape, d'un pape très à gauche. On va parler aux environs de 8h20, dans une vingtaine de minutes, quand on se retrouvera, de la manière dont vous jugez l'évolution de l'Église de France et le décalage prononcé entre ce que dit ce pape et ce que pensent les catholiques français.